Merci pour la joie de vivre ce temps. Je suis impressionné parce que c'est vrai, l'an dernier, pour ce qui était une inauguration de cette formule, nous étions un petit noyau. Le noyau s'enrichit et je pensais à l'instant à la dernière fois où on m'a demandé de traiter ce sujet très important. C'était en Martinique, dans une église de 500 membres à peu près, à Fort-de-France. Et il y avait 40 personnes, vous voyez. Donc, c'est encourageant d'être ce nombre ici ce soir. Que Dieu nous dirige sur ce thème, donc, qui m'a été suggéré de ce qu'on appelle aujourd'hui la relation d'aide, qu'on appelait autrefois, il y a peu de temps, la cure d'âme. Je dirais pour aussi peut-être pour mettre à l'aise chacun, que j'y ajoute généralement aussi le mot visite. Visite et cure d'âme ou relation d'aide. Tout simplement parce qu'une partie des éléments que nous allons développer s'inscrit tout à fait dans le cadre d'un service, d'un ministère de visite dans l'église locale. Vous savez que bien des églises apprennent à développer ce ministère. Il y a même des églises qui ont un groupe de visite. Il m'est arrivé ici ou là d'avoir un temps de séminaire sur ce thème pour le groupe de visite de l'église, qui fonctionne avec deux personnes en équipe de deux, avec une stratégie bien particulière, des moments où l'on se retrouve, où on fait le point, etc., etc. C'est très intéressant, c'est très important d'avoir le souci des visites dans l'église locale, n'est-ce pas? Alors, ça aussi, ça entre tout à fait dans le domaine de ce que nous allons voir. Mais je vous propose deux lectures en toile de fond de ces principes pratiques de relation d'aide. Un verset dans Ésaïe 40, il s'agit du verset 11, concernant notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans le cadre d'Ésaïe 40, verset 11. C'est un merveilleux verset, d'autant plus quand il se situe dans le cadre de nombreux chapitres consacrés à ce qu'on appelle la doctrine de Dieu dans les Écritures. Et il est question aussi de la souveraineté absolue de Dieu, du Dieu éternel. Ce sont des chapitres fantastiques. Et puis, vous avez des touches merveilleuses sur l'amour de Dieu dans ces chapitres, et ce verset 11 en est une. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Voilà la relation d'aide du bon berger. Et c'est la meilleure note qu'on puisse offrir en introduction à ce temps de réflexion. Et puis, comme en écho, mais beaucoup plus douloureux, Ézéchiel 34, qui est un des chapitres clés, Ézéchiel 34, qui appartient donc à la décadence terrible de Juda. Cette décomposition spirituelle, morale, sociale et le jugement sévère de Dieu à l'endroit des bergers, des conducteurs. Et il m'arrive souvent de penser à ce texte actuellement parce que, voyageant beaucoup, je suis ému de voir que qu'il y a beaucoup de brebis aujourd'hui qui sont dispersées sur les montagnes et qui souffrent parce que elles ne savent plus très bien comment s'identifier au troupeau. Ça, c'est un des drames de l'Église aujourd'hui. Alors, nous lisons les versets 1 à 6 d'Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Vous savez que c'est un des titres, sinon le titre principal de Dieu dans le prophète Ézéchiel. J'ai noté en marge de ces deux mots, Seigneur éternel, le chiffre 157, c'est-à-dire que c'est déjà la 157e fois dans ce prophète Ézéchiel que Dieu est présenté de cette manière. Il y a donc un message très particulier sur ce double aspect de la personne de Dieu, le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche, mes amis. Alors vous avez bien sûr, en filigrane derrière ce jugement, le cahier des charges du berger, hein. Notamment cette dimension que nous appelons la relation d'aide, que l'on va aborder. Elle est là, elle est incluse dans ce tableau. Et puis ensuite, on passe au verset 11, le contraste, hein, le grand berger, le bon berger, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées. Et je fortifierai celles qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Alors, avant d'évoquer les exigences de la relation d'aide, et encore on va devoir aller assez vite, hein, il vaut la peine d'avoir quand même une définition, d'autant plus avec ces changements au niveau du vocabulaire, hein. Quand j'ai commencé à travailler le sujet, on parlait encore de cure d'âme, et c'était pas si mauvais que ça, hein. Cura, soin, souci, curare, donc prendre soin de. Traitement médical, faire une cure, guérison d'une maladie, d'une blessure. Il y a le curateur aussi. la personne chargée d'administrer certains biens, d'assister à un mineur émancipé, un travail de surveillance, on veille aux intérêts d'une autre personne. Vous avez le mot curé, qui vient de là aussi, c'est intéressant. Prendre soin, alors cure d'âme, prendre soin d'une âme de manière individuelle. Et c'est là que ça coince un peu, parce qu'une personne, bon, c'est vrai que c'est une âme au sens le plus large du terme, on dit que dans telle ville il y a tant d'âmes, n'est-ce pas, mais ça c'est un sens très général, il y a tant de personnes, mais c'est vrai aussi que dans cure d'âme, on a eu un peu tendance à rétrécir la portée du travail. L'homme n'est pas âme seulement, hein. L'homme est esprit, âme et corps. Il ne faut pas chercher trop à se battre sur les divisions pointues et pointilleuses entre esprit et âme, parce que la Bible n'est pas d'abord un traité d'études psychologiques de l'homme. Elle ne se trompe pas sur le sujet, mais le but n'est pas là. Le but de Dieu n'est pas de nous dire, voilà, ça appartient exactement à l'âme, ça appartient exactement à l'esprit. On se rend compte que dans les Écritures, certains termes sont parfois pris l'un pour l'autre. Et on a écrit parfois des livres où on est allé trop loin dans la classification dans ce domaine. Je pense au livre L'homme spirituel, si je me souviens bien, de Watchman Nee. Sa classification est problématique parce qu'il est allé trop loin, sans doute aussi marqué par son propre arrière-plan culturel. Donc il ne s'agit pas de se battre, hein. On dit que l'homme est une créature trichotomique ou dichotomique, c'est-à-dire composé de deux parties ou de trois parties, et il y a les partisans du 2, il y a les partisans du 3. On ne va pas se battre là-dessus. Deux fois dans les Écritures, il est question de l'esprit, l'âme et le corps. Deux fois, hein, dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux 4, dans la conclusion d'Éphésiens 5, 1 Thessaloniciens 5, que tout en vous, l'esprit, l'âme et le corps, etc., n'est-ce pas ? Mais ne nous battons pas sur cette question. Ce qui est important, c'est de réaliser la complexité humaine et toutes ces dimensions, cette interpénétration de l'esprit, de l'âme. Et comme la cure d'âme amène souvent à donner des conseils pour les trois dimensions, si on évoque l'esprit, l'âme et le corps, on a fini par préférer parler de relations d'aide, pour ne pas garder dans l'esprit l'idée qu'on ne s'adresse qu'à des âmes. Et c'est vrai que dans une véritable cure d'âme, une véritable relation d'aide, on vise la personne tout entière. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui est un bon conseiller, un bon visiteur, un bon médecin spirituel dans l'Église de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui veillera à ne pas isoler un aspect de l'autre. Dieu s'adresse à la totalité de la personne. Esprit, âme et corps, et d'ailleurs on le verra dans la relation d'aide, il va falloir d'ailleurs discerner ce qui est du corps, ce qui est de l'âme au niveau émotionnel, par exemple, l'affectivité, ça on sait qu'on peut d'une manière toute particulière l'inscrire dans le domaine de l'âme, et puis ce qui est du domaine de l'esprit, du domaine de la volonté, etc., n'est-ce pas ? Ce sera un des aspects de ce travail d'aide des autres que de situer où se situe le problème, à quel niveau, ou à plusieurs niveaux, etc., mais nous y reviendrons. Mais c'est vrai que notre service dans ce domaine fait de nous à la fois une assistante sociale, un médecin, un psychologue, un conseiller spirituel. On enfile des blouses différentes successivement dans ce travail. C'est ce qui est la difficulté de ce service. C'est que il faut donner parfois des conseils de béaba dans le domaine matérielle et corporelle. Il faut être l'assistante sociale, il faut parfois donner des conseils d'ordre médical, même. Il faut, bien sûr qu'il faut être prudent, et c'est la raison de nécessaires entretiens sur ce thème. On parle aussi de ministère de la réconciliation maintenant. Ça, c'est aussi une des terminologies employées, parce que généralement, quand on fait de la cure d'âme ou de la relation d'aide, on est souvent en face de situations de désordre, de lutte, qui nécessitent une réconciliation. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec ses frères, parfois dans le domaine conjugal, dans les relations familiales, etc., etc. Vous avez remarqué, au travers de nos deux lectures, que manifestement la note dominante de la relation d'aide, c'est l'amour. Il faut le dire d'emblée, et si nous réussissons à le faire, nous le redirons en conclusion. Vous avez remarqué la beauté de ce texte d'Ésaïe 40, vous avez aussi vu ce portrait du bon berger en contraste avec les mauvais bergers. D'un côté, cette sollicitude extraordinaire du bon berger. Oh, amour empreint de sévérité, hein, vous avez remarqué qu'il est aussi question de brebis grasses et vigoureuses qui ont droit à un traitement plutôt sévère. Et de l'autre côté, chez les mauvais bergers, vous les avez dominés avec violence et dureté. Et c'est vrai que ça ne s'adresse pas seulement aux conducteurs de l'église locale, ministère pastoral, conseil d'anciens, c'est aussi pour les uns et les autres. Bien sûr qu'on ne s'improvise pas visiteur, on n'a pas le droit de bricoler dans le domaine de la relation d'aide, mais les uns à l'égard des autres, nous avons aussi des fonctions d'entraide dans lesquelles nous devons faire très attention et où nous devons réaliser que notre ministère doit être avant tout un ministère plein d'amour. Nous n'allons pas parler de recettes techniques en quelque sorte. Ça c'est un peu le danger des livres qui traitent du sujet. Parfois on a l'impression que si on applique bien les 10 points, ça doit marcher à tous les coups. Et on oublie que l'approche des autres, c'est l'approche des personnes, et que la personne humaine est très complexe, et que cela nécessite avant tout de compter sur les compassions de Dieu, sur le travail du Saint-Esprit, sur l'illumination de nos cœurs par le Saint-Esprit. Les techniques viennent après. Et je préfère même ne pas les appeler techniques, parce que c'est tellement, oui, c'est tellement technique de parler technique. On n'approche pas l'homme comme ça. Simplement avec des recettes toutes faites. Nous avons affaire à des personnes. Et ça va se sentir, si vous allez vers autrui avec des recettes toutes faites et de la technique, il le réalisera, il le sentira. Et il y aura le rideau de fer qui va très rapidement se baisser. Celui qui est en face de moi a besoin de réaliser à mon contact qu'il est une personne, que je le considère en tant que personne, et non pas en tant que individu mort sur une table de marbre dans un laboratoire de pathologie où il suffit de disséquer et de dire point 1, point 2, point 3, n'est-ce pas? Voilà en tout cas la note dominante que je voulais donner, peut-être en y ajoutant une pensée d'un homme de Dieu qui a évoqué le travail des bergers et qui écrit ceci: reconnaissons que les moutons ne sont pas des animaux particulièrement agréables. Nous avons généralement à l'esprit l'image romantique d'un agneau blanc et tout frisé. Mais en réalité, dans leur état naturel, les moutons ne se soucient pas beaucoup de leur propreté et ils portent sur eux toutes sortes d'insectes nuisibles. C'est pourquoi il est nécessaire de les plonger plusieurs fois par an dans des bains chimiques puissants pour éliminer cette vermine. Les moutons ont également la réputation d'être des animaux stupides. C'est donc un travail sale et servile que d'être berger d'un troupeau de moutons. Il s'agit, entre autres, d'entourer, de fortifier les faibles, de soigner les malades, de panser les plaies et de ramener les égarés. Tout ça sous-entend que c'est un travail difficile. C'est un travail difficile. Ça ne veut pas dire que le berger est meilleur que l'autre, parce qu'il est aussi brebis du Seigneur. C'est-à-dire que ce que nous venons de lire s'applique même à celui qui visite. Et ça, ce sera très important dans notre relation avec ceux que nous rencontrons pour les aider. Nous devrons toujours avoir à l'arrière-plan de notre esprit que nous abritons nous aussi des parasites et pas mal de problèmes. Et que nous avons besoin nous aussi de la grâce du Seigneur. Parce que sinon, nous sommes durs avec les autres. Hein. Si nous les regardons du haut de notre prétendu 31 spirituel, il est sûr et certain que nous allons faire beaucoup de dégâts. Voilà, je ne parlerai pas des rapports de la relation d'aide avec le ministère de prédication, parce qu'il y a une interdépendance. Généralement, j'en parle quand j'ai affaire pas mal à des prédicateurs. Il y a nécessité des deux. En disant que le ministère de la relation d'aide est un complément indispensable à la prédication. La prédication s'adresse au groupe. Ce ministère s'adresse à l'individu. Et colle si bien avec cette parabole de la brebis perdue de Luc 15, versets 3 à 7. Hein. On laisse les 99 brebis du troupeau qui vont bien, entre guillemets, qui ne posent pas de problème majeur. Et on va à la recherche de celle qui s'est perdue pour la soigner, la ramener au sein du troupeau. Alors, il y aurait déjà là beaucoup de choses à dire sur les rapports entre ministère de prédication et relations d'aide, mais on va aller plus loin pour entrer tout de suite dans ces exigences de la relation d'aide. Premier point important, et il faut toujours commencer par là, ce que j'appelle la piété personnelle. La piété personnelle, la recherche de Dieu dans ma vie personnelle. Être un berger selon le cœur de Dieu. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront avec intelligence et avec discernement. Jérémie 3, 15. Nécessité d'intelligence spirituelle et de discernement. Ce sont vraiment deux qualités indispensables quand on veut aider ceux qui nous entourent. Vous avez dans Jérémie, le verset 21 du chapitre 10, « Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement et que tous leurs troupeaux sont disséminés. » C'est le mal central. Le drame d'Israël, dans sa décadence, c'était d'abord au niveau des responsables, n'est-ce pas, de ceux qui étaient les conducteurs, qui n'avaient plus soif de Dieu, qui n'avaient plus d'intimité avec le Seigneur, qui vivaient une sorte de formalisme spirituel. On avait enfermé Dieu à double tour dans le temple de Jérusalem. On avait toutes sortes de pratiques, de techniques spirituelles, qui était devenu vide de sens. On y avait ajouté de l'idolâtrie, alors à grand renfort. Et le résultat, le peuple se détournait. Il ne voulait plus rien savoir. Et il était prêt à courir n'importe où pour assouvir ses besoins profonds. Vous avez ce beau texte de Genèse 49, 22, 24, comment Joseph a excellé dans la cure d'âme, dans la relation d'aide. Et c'est intéressant, on aurait pu prendre Genèse 42 et suivant, mais on ne va pas le faire. Hein. On aurait trouvé quantité de principes très intéressants, mais dans Genèse 49, dans la bénédiction par Jacob, de Joseph, il est dit au verset 22, Genèse 49, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ça commence par là, verset 22. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Cela évoque sa relation avec Dieu. Il est près d'une source. Et c'est là sa fertilité. Parce qu'il est près d'une source. Le résultat, situation d'hostilité. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Alors on peut imaginer toutes les murailles d'adversité qu'a connu Joseph entre l'âge de 18 et 30 ans à peu près. Et là, Jacob dit, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Il y a une telle vitalité dans la relation de Joseph avec le Seigneur que les branches de l'arbre de sa vie peuvent passer par-dessus toutes les murailles d'adversité. Et qui sait s'il en a connu ? Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est beau, hein ? Voilà comment Joseph est devenu un berger. Pendant une douzaine d'années, il a cultivé une intimité avec Dieu, dans une situation d'hostilité, d'injustice absolument incroyable, pas pour un court temps, n'est-ce pas, mais pendant des années où une tuile a succédé à une autre tuile. Mais il s'est accroché au Seigneur. Et c'est ainsi qu'il est devenu remarquable dans la relation d'aide. Parce que Genèse 42 à 50, pour moi, c'est une démonstration dans l'Ancienne Alliance de ce que doit être la relation d'aide. Il était en face de ses frères, qui étaient des criminels, à la conscience endurcie, qui pensait que le péché s'efface avec le temps, et il a fallu qu'au bout de 20 ans, Joseph, dans les larmes, utilise en quelque sorte une approche extrêmement sévère qui allait vraiment à contre-cœur de ce qu'il souhaitait, puisque il est question, je crois, 8 fois, je crois, il y a le mot pleurer. Il y a 7 textes qui parlent des larmes de Joseph entre Genèse 42 et 50. Il pleurait, mais il a su utiliser dans sa relation avec Dieu la bonne approche, très douloureuse, pour que la conscience de ses frères soit resensibilisée au problème de leur péché et qu'ensuite, ils en viennent à un moment donné à plaider coupable. Et il a fallu du temps. Et lire Genèse 42 à 50 dans cette perspective est extraordinaire, surtout quand on le considère à partir de Genèse 49, qui donne la clé. Alors j'ai noté ici, dans cette question de la piété personnelle, la recherche de Dieu, l'importance de connaître Dieu. La piété personnelle doit viser d'abord ma connaissance du Dieu vivant. Quand j'entre en contact avec la parole de Dieu, c'est pour connaître le Dieu vivant. Pas connaître simplement intellectuellement, elle est inscrite dans le mot connaître, la dimension intellectuelle, mais connaître dans le sens profond qu'a ce terme dans de nombreux passages des Écritures, c'est une connaissance pratique, c'est une connaissance intime, c'est une connaissance qui est un échange. Quand j'entre dans la parole de Dieu, je me donne au Seigneur pour le connaître, de manière à ce que le Seigneur se donne à moi et veuille bien me révéler quelque chose sur sa personne, sur son caractère. Et je crois que c'est important d'approcher les Écritures, d'abord dans cette pensée de la recherche de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de relation d'aide solide sans une approche aussi équilibrée et juste que possible de la personne de Dieu. Et je crois que ça, un des grands problèmes de la relation d'aide aujourd'hui vient de ce que trop souvent on part d'autres points de repère que Dieu lui-même. Si vous ne partez pas de la personne de Dieu, vous aurez une mauvaise relation d'aide. Parce que c'est la personne, le caractère de Dieu qui pose tous les autres éléments. C'est la connaissance de Dieu qui me permet d'avoir une juste connaissance de moi-même à travers les Écritures. Connaître Dieu, se connaître soi-même, connaître les autres. La piété personnelle va nous conduire dans ces trois directions. Connaissance de Dieu, découverte de soi-même et découverte de l'homme en général. Et vous savez, ça correspond aux trois grandes questions que Moïse a posées à l'Éternel dans l'histoire du buisson ardent. Il avait 80 ans et il a dit, mais qui suis-je pour aller? Et comment est-ce que je vais te présenter? Et puis, ils ne te croiront pas. J'ai besoin de savoir qui tu es, parce que c'est toi que je vais présenter. J'ai appris pendant les 40 dernières années à me connaître derrière les troupeaux. Et j'ai appris à connaître les hommes dans mes 80 années d'existence jusqu'ici. Et je sais qu'à vue humaine, ceux vers lesquels tu m'envoies, mon peuple, ton peuple, ils ne croiront pas. Connaître Dieu, se connaître soi-même, connaître les autres. Dans ma piété personnelle, je l'ai mis, la Bible reste, même si ce n'est pas un traité de psychologie, le livre de psychologie le plus extraordinaire et le plus actuel. Et moi, il y a quelque chose qui me bouleverse, voyageant trois fois par an outre-mer, et je pense à Élie et à son épouse, vous avez vécu là-bas, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Oh bon, c'était déjà connu avant. Oui, vous serez d'accord pour dire que ce qui est frappant, c'est que où que l'on se trouve dans ce monde, sous toute latitude, face à n'importe quelle culture, le message de la Bible colle avec les besoins de l'homme. Ça, c'est extraordinaire. Le cœur de l'homme est le même partout. Et s'il y a des adaptations de forme qui sont nécessaires pour être compris, le fond reste le même. Ce que nous disons ici, nous pouvons le dire n'importe où sur la surface de la terre. Ça, c'est le caractère transculturel des Écritures. Alors que les Écritures s'inscrivent dans certaines cultures, notamment orientales. Et c'est fantastique de voir finalement que, en Orient comme en Occident, les mécanismes intérieurs, les problèmes de l'homme, etc., sont exactement les mêmes. Alors je dis que là, cette approche de la parole de Dieu, cette piété personnelle est importante aussi à cause des biographies des personnages des Écritures. C'est pour ça que c'est important de lire l'Ancien Testament. Se priver de l'Ancien Testament, c'est se priver de ces portraits humains qui, à la différence des ouvrages non inspirés de Dieu, présente cet avantage d'être des portraits qui correspondent à la réalité. On n'a pas embelli l'histoire. D'ailleurs, pour moi, c'est une des raisons de croire à l'inspiration, à l'autorité des Écritures. La Bible est le seul livre au monde dans lequel les rédacteurs inspirés, les auteurs donc à vue humaine, rédigent une histoire qui est complètement défavorable au peuple auquel ils appartiennent. Dans toute l'histoire, on a toujours été tenté d'embellir l'histoire de la société dont on fait partie. On réécrit l'histoire pour qu'elle soit le plus favorable au côté duquel on se trouve. Hein. On est en train de faire du révisionnisme de l'histoire en Israël. En ce moment, c'est un des graves drames d'Israël. Pour ne pas être en bisbille avec les Palestiniens, il faut réécrire l'histoire. Et donc il y a une évolution permanente de la correction de l'histoire pour qu'elle soit toujours le mieux orientée par rapport à une majorité. Pas dans les Écritures. Pas dans les Écritures. Quelle condamnation d'Israël et les rédacteurs étaient des Juifs. C'est leur peuple dont ils parlent. Donc les biographies ont cette qualité de présenter des êtres humains dans leur grandeur et leur servitude, avec leurs lacunes, avec leurs drames, qui nous apprennent énormément. Beaucoup de choses vont être utiles dans notre service, dans notre relation d'aide, si nous passons du temps à creuser ces biographies bibliques. Alors nous pouvons bien entendu, vous avez les radiographies, hein, et pour moi les radiographies dans les Écritures sont les psaumes. Les psaumes sont extraordinaires parce que ce sont des scanners, les états d'âme s'y révèlent, les combats profonds, c'est bouleversant. Moi, plus j'approche les psaumes, et je suis en train d'écrire un livre dans lequel j'évoque souvent les psaumes, c'est bouleversant de quand vous lisez les psaumes, vous avez envie de signer, de mettre votre nom à la place. Mais c'est exactement, je suis dans la situation. Donc là encore, pour comprendre l'homme, ses combats, ses nœuds, sa versatilité, etc. Les psaumes sont extraordinaires. Il faut passer du temps aussi dans les psaumes pour y être aidé. La Bible est le livre de Dieu et le livre de l'homme. Alors j'ai mis en note qu'en plus de cette priorité, il ne faut pas négliger la lecture des auteurs, grands peintres de la vie humaine. Je le signale toujours, il est bon, sans que la parole de Dieu en souffre. Priorité à la parole de Dieu. Mais ce qui peut nous aider à mieux comprendre l'humanité, c'est de lire certains ouvrages qui brossent des portraits. Vous avez des auteurs qui ont eu le chic pour vous brosser des portraits, des Balzac, Clavel, etc. Clavel, c'est notre temps, Balzac, c'est plus ancien, mais on pourrait en ajouter. Et ça peut être intéressant de temps en temps de lire un ouvrage qui présente comme ça une biographie de quelqu'un qui vit autour de nous, parce que ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses et parfois de mieux pénétrer des situations, des problèmes, mais en faisant attention de respecter les priorités, comme les bonnes biographies missionnaires. On en évoquait une tout à l'heure là sur Romains 12, hein, Hélène Rosevert, oui c'est ça, au Congo. Rien que ce petit livre qu'on évoquait tout à l'heure, mais pour la relation d'aide, est une aide énorme quand on a affaire à un missionnaire ou une missionnaire qui, dans ses écrits, ou un auteur qui raconte une histoire missionnaire et qui est droit, qui veille à situer le contexte, qui n'a pas peur de parler aussi des chutes. Vous avez quelques biographies missionnaires qui sont absolument remarquables. Moi, j'en relis régulièrement. Je suis en train de relire pour la quatrième ou cinquième fois la biographie de James Fraser, qui est missionnaire de ce siècle, qui est décédé en 38, qui a travaillé donc en Chine. Mais chaque fois, je réapprends quantité de choses essentielles. Vous avez la biographie un peu romancée, mais très très réaliste d'Adoniram Judson, pionnier missionnaire en Birmanie, splendeur de Dieu, qui est aussi extraordinaire. Certaines des biographies d'Hudson Taylor, pas toutes, parce qu'on en a maintenant plusieurs, moi je regrette que celle en deux volumes ne soit plus publiée, parce qu'elle recèle un trésor dans des centaines de lettres que Hudson Taylor adressait à ses cercles de prière et à sa famille. Alors là, vous touchez aussi du cœur les problèmes du croyant, ses combats, ses conflits, comment Dieu est intervenu, comment quelqu'un a pu aider dans telle situation. Et ce sont des suggestions fortes pour notre propre service. Voilà. Alors ce que j'ai mis, avant de passer à un deuxième grand sujet, pour conclure cette question de piété personnelle, de recherche de Dieu, première exigence de la relation d'aide, j'ai noté ceci. Nous avons trop abandonné la dimension de révélation, de miracle, dans la relation d'aide, pour la dimension de formation et une technique. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Dieu est aussi celui qui révèle la marche à suivre. Il est celui qui inspire l'attitude et la parole à ceux qui le cherchent. Et ça, on l'expérimente. Il y a quelque chose qui est très difficile dans le ministère de relations d'aide, c'est quand vous devez faire de la relation d'aide par téléphone ou par courrier. Et à cause de mon ministère, ça m'arrive. Et je suis parfois pendant des semaines, des mois, voire des années. Je pense à une situation de relation d'aide par téléphone qui s'est étalée sur plus de 10 ans. Où chaque année, chaque semaine, il y avait un entretien et quelqu'un qui était à l'étranger. En ce moment, je vis un service de relation d'aide avec un couple missionnaire en Afrique. Donc par téléphone, parce que la situation a été grave et ce couple missionnaire a été à deux doigts de la rupture. Et là, je peux vous assurer, alors qu'on touche du doigt ce qu'on dit, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui est à 4000, 5000 kilomètres, et qu'il faut aider, qui parfois est totalement isolé sur le champ missionnaire, vous criez à Dieu, Dieu, Seigneur, mais dans cette situation, avec les éléments qui me sont donnés, tout récemment, il y a 10 jours à peine, peut-être même pas, coup de téléphone de l'épouse, quoi dire dans la situation, et voir comment le Seigneur, dans ces moments-là, sait nous guider, nous donner la parole au moment où il le faut, n'est-ce pas? On est tellement centré aujourd'hui sur les méthodes que, c'est Dieu qui paye, hein. Dieu est trop facilement laissé de côté, l'action puissante du Saint-Esprit est trop facilement laissée de côté. J'ai mis la meilleure relation d'aide n'est pas toujours le fait de spécialistes techniquement bien formés. Pour nous garder de ces deux écueils, qui sont des attitudes de réaction, penser qu'il faut une énorme formation dans ce domaine, et donc dire c'est pas pour moi, je pourrais jamais rien faire dans ce domaine, et se priver d'un service qui est absolument nécessaire dans l'Église de Jésus-Christ, ou aller à l'autre extrême, en étant l'apprenti sorcier, en faisant les choses n'importe comment, je compte sur le Seigneur, donc je peux travailler en amateur. Alors là on fait une casse terrible, et je vous en donnerai certainement quelques exemples. Ça, c'était le premier point. Piété personnelle, et nous en avons vu les raisons. Maintenant, nous allons ouvrir un grand chapitre. Le chapitre de l'écoute. Parce que il n'y a pas de relation d'aide, tout comme de service de visite valable, sans une écoute de qualité. Et vous allez voir que c'est pas simple, l'écoute. C'est pas simple. L'écoute. Donc nous allons nous pencher sur les caractéristiques d'une écoute de qualité.
c'est Jésus qui le disait, Luc 8, 18, hein, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Bien entendu, ça commence par l'écoute de Dieu. C'est la raison qui nous a conduit à parler tout d'abord de la piété personnelle. Je vais apprendre l'écoute de mon prochain par l'écoute de Dieu. Celui qui ne sait pas écouter Dieu va avoir des problèmes dans l'écoute de son prochain en tant que disciple de Jésus-Christ. Et il va donc avoir des problèmes pour donner le conseil juste. Vous pensez certainement à un texte de l'Ancien Testament qui est très important dans ce domaine de l'oreille et de la langue, c'est Ésaïe 50, verset 4. Hein? Ésaïe 50, verset 4, excusez-moi de temps en temps ça monte, là je suis malheureux pour vous. Oh, c'est merveilleux. Non, parce qu'alors quand on écrit, et que subitement ça monte et ça descend, Ésaïe 54, donc 50, verset 4, hein, c'est un texte prophétique, messianique, il annonce. Celui qui a une parfaite écoute et qui a la langue la plus extraordinaire qui soit, hein, vous avez toute une annonce concernant la venue de Jésus-Christ et son ministère, mais bien entendu, l'accomplissement au premier degré, ben, c'était pour Ésaïe, c'est pour nous, le Seigneur l'Éternel, m'a donné une langue exercée, une langue de disciple, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, on rejoint la relation d'aide, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Rapport entre l'oreille et la langue, mais rapport aussi indirect entre la manière d'écouter Dieu, puis ensuite la manière d'écouter notre semblable. Alors, premier point, première caractéristique d'une écoute de qualité. Écouter pour comprendre. Écouter pour comprendre. Si j'utilise cette formulation, c'est parce qu'elle est biblique. En effet, à diverses reprises, Jésus s'est tourné vers ses disciples, notamment lorsque ses disciples l'interrogeaient pour avoir le sens plus profond, plus détaillé d'une parabole. Hein, il le prenait à l'écart après, il lui disait, écoute, nous on veut savoir plus. Et il leur disait, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Vous avez toute une série de passages, même dans les actes aussi, Matthieu 13, 13, 15, 10, Marc 4, 12, etc., etc. Écoutez et comprenez. C'est intéressant parce que le petit mot grec qui a donné comprendre, comprenez en français, c'est le verbe être. Et la préposition, le préfixe avec. Être avec, sous-entendu, être un avec l'autre. Être un avec celui qui parle. C'est-à-dire s'identifier. Il faut que je fasse un avec celui qui est en train de me parler. Qui vide son sac, qui vide son cœur. Il faut que je puisse m'identifier. Je fais corps avec l'autre. Je dois apprendre à rejoindre l'autre là où il est. Et j'ai souvent utilisé cette illustration de ce chef amérindien, peau rouge, comme on dit, qui vient d'être nommé juge de sa tribu, et qui part dans la grande forêt pour s'adresser au grand esprit. Il est pénétré du sens du devoir, il a peur de mal faire dans son rôle de juge, et il va faire cette prière au grand créateur des hommes, « Empêche-moi de juger un de mes semblables avant d'avoir marché 2 mois dans ses mocassins. » C'est significatif, hein? Il faut que je m'identifie. Vous avez, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas étudier tous ces textes, vous le comprenez, on n'a pas le temps de le faire ensemble, mais vous avez Genèse 23, qui est fantastique. Genèse 23, c'est un dialogue à l'oriental entre Abraham et des gens auxquels il s'adresse pour obtenir un champ, en tout cas un endroit pour pouvoir ensevelir sa femme. Et ce texte, dans ses 16 premiers versets, est constellé du mot « écouter ». C'est tantôt ses interlocuteurs qui disent « écoute », c'est tantôt lui, ils sont toujours en train de se dire « écoutez, 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 écoutez ». Et puis à un moment donné, si je me souviens bien, il est dit qu'Abraham a écouté et il a compris. Et il a compris quand celui qui va lui vendre le champ et la caverne lui propose une somme. Il lui propose, il veut le lui donner soi-disant à titre gratuit. Abraham connaît très bien les coutumes, donc il insiste pour payer. Et l'autre lui fixe un prix, mais enfin encore en laissant entendre que le prix est abominable. La somme est absolument faramineuse. Mais Abraham, il a écouté, parce qu'il a écouté, il a compris, et il signe le chèque. C'est très intéressant ce texte de Genèse 23 sur la manière d'écouter pour arriver à comprendre. Vous voyez ? Et je pense que moi, je me serais laissé berner. Mais lui, il connaissait connaître l'homme. Écoutez et comprenez. Tout simplement parce que chacun est profondément différent de l'autre. Il faut bien connaître pour pouvoir bien aider chacun. Pour pouvoir apporter un soutien approprié à chacun. Le bon berger connaît chacune de ses brebis et l'appelle par son nom. Hein, Jean 10, versets 3 et 27. Le bon berger connaît chaque brebis et l'appelle par son nom. Et là, le même auteur que je citais tout à l'heure, toujours sur le bon berger et les brebis, écrit ceci. Le bon berger connaît ses brebis, il appelle par leur nom les brebis. Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Jean 10, 3, et versets 14 et 15, là. Le berger oriental d'autrefois était certainement différent de la plupart des bergers contemporains. À quel usage sont destinés les boutons et brebis qu'ils gardent? Les bergers d'aujourd'hui, dans nos régions. À la production de laine ou à l'abattoir. En Occident, les ovins sont surtout élevés pour leur viande. Leur vie est donc brève, si bien qu'il ne s'établit pratiquement aucun lien entre le berger et l'animal. Autrefois en Palestine, les moutons étaient élevés pour leur laine. Ils étaient tondus annuellement, le berger les avait sous sa responsabilité pendant plusieurs années. Il s'établissait donc entre lui et les bêtes de son troupeau une relation de confiance et d'intimité. Le berger connaissait chaque animal et lui donnait son nom. Vous voyez cette différence d'approche. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire. J'ai presque envie de le dire dès maintenant. On parlait de l'importance de l'amour dans la relation d'aide. Un bus touristique circulait dans une région orientale. Et si je me souviens bien, c'était le moment où la personne qui donnait des explications était en train de parler du berger qui, en Orient, est devant le troupeau et non derrière. Il conduit, il est le guide. Et juste à ce moment-là, un des voyageurs dans le bus voit par la fenêtre un berger, entre guillemets, on va voir, qui est derrière le troupeau et qui le fait aussitôt remarquer. Alors, l'homme est gêné, il dit, écoutez, c'est pas possible. arrêtez-vous, je vais descendre, je vais aller voir. Alors il va voir, il revient un moment plus tard, il dit, écoutez, non, c'est bien ce que je pensais, c'était pas un berger, c'était un boucher qui emmenait un troupeau à l'abattoir. Donc il poussait, il avait d'ailleurs le bâton, c'est intéressant. Il y a les bouchers et les bergers, aussi dans la relation d'aide. Et c'est vrai qu'il y a de la casse. C'est facile d'utiliser le bâton. C'est facile. Quand on veut s'improviser dans ce domaine. Écoutez ce qu'écrit, bon, c'est un spécialiste, comme on dit, Paul Tournier, qui était donc médecin genevois. Il est près du Seigneur. Bon, il faut faire très attention avec ce Tournier. Nous avons une dizaine d'ouvrages à peu près de lui. Le premier est sans doute le meilleur, La médecine de la personne. Il en a écrit toute une série d'autres. Il faut faire attention parce que dans certains domaines, il y a à boire et à manger, même dans sa théologie. Donc je préfère vous le dire pour que si vous avez entre les mains un jour un livre de Paul Tournier, vous ne preniez pas tout pour l'évangile. Il y a bien des domaines problématiques, mais il y a des choses intéressantes, parce que c'est un homme qui a acquis une grande expérience dans la relation avec l'homme. Je me souviens d'avoir entendu une de ses conférences qui était absolument passionnante. Simplement, il faut toujours vérifier ce qu'il raconte à la lumière des Écritures. Et il dit très justement ceci dans un de ses livres, nous cherchons, dans la relation d'aide, hein, quand nous voulons voir quelqu'un pour... essayer d'être aidé dans nos situations difficiles. Nous cherchons non pas quelqu'un qui tranche nos dilemmes à notre place, mais quelqu'un qui essaie de les comprendre. Non pas quelqu'un qui nous impose sa volonté, mais quelqu'un qui nous aide à trouver la nôtre. Non pas quelqu'un qui nous dicte ce qu'il faut faire, mais qui nous écoute avec respect. Non pas quelqu'un qui réduit tout à des débats objectifs pour en tirer une conclusion logique, mais quelqu'un qui comprend nos motifs personnels, subjectifs, nos sentiments, même notre faiblesse et nos fautes. Il ne veut pas dire, Paul Tournier, qu'il les accepte pour autant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si quand quelqu'un vous raconte qu'il a fait une chose terrible, vous avez l'impression, il a l'impression que vous êtes sur une chaise électrique et que vous allez traverser le plafond, ça ne va pas l'encourager à continuer. Oui. Il faut être prêt dans la relation d'aide à entendre des choses horribles. Moi, je vais vous dire, entre nous soit dit, j'ai appris par la relation d'aide un tas de choses que je n'aurais jamais aimé savoir. Parce que j'ignorais certaines des turpitudes les plus basses de l'homme. Et je ne veux pas dire que je n'aurais pas pu moi-même être coupable. C'est pas ça ce que je veux dire. Je sais que si j'avais vécu dans ma vie à un endroit donné, à la bonne température, dans les conditions idéales, ces turpitudes, ces choses horrible, je les aurais pratiqués. Vous savez, il y a en chacun de nous un Hitler qui sommeille. Il faut le dire, hein. Il y a en chacun de nous un Hitler qui sommeille. Nous sommes capables de faire des choses aussi horribles que lui. Et ça, c'est important quand on fait de la relation d'aide. Mais c'est vrai que dans la relation d'aide, vous entendez parfois des choses horribles. Je me souviens, quelqu'un un jour m'a dit que dans un pays étranger, dans des circonstances particulières, il avait été un assassin, etc. Vous en apprenez. Si vous lui sautez dessus à ce moment-là, comme dans la parabole du serviteur impitoyable, vous savez, il le saisit et l'étranglait. Là, vous êtes condamné à vous arrêter rapidement de faire de la relation d'aide. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là. Se mettre dans la peau des autres, se sentir concerné par leur vie, s'identifier. C'est important ce que nous disons. Vous savez pourquoi? Parce que nous serons toujours très tentés par un remède miracle. Par le remède passe-partout. Vous savez, autrefois, quand on pensait à l'armée, et à l'infirmerie, et à l'hôpital, à l'armée, le militaire va à l'infirmerie, j'ai mal au pied, Aspro. J'ai mal à la tête, Aspro. Je me suis cassé le bras, Aspro. C'était devenu la boutade, n'est-ce pas, pour dire que on n'avait pas 115 remèdes. Mais c'était extrêmement restreint, n'est-ce pas. On peut être tenté, dans la relation d'être dans l'Église, d'avoir exactement la même attitude. D'avoir le remède miracle. Par exemple, le remède miracle, ça peut être celui par lequel nous sommes sortis récemment d'une situation difficile. Et ça a tellement bouleversé notre vie qu'on est maintenant branché sur ce remède. Et on trouve toujours le moyen, tout en écoutant l'autre, de trouver l'indice qui va nous permettre d'utiliser le remède. Vous comprenez? C'est peut-être le mot, hein? On est tellement branché là-dessus qu'on va trouver le mot. Ah oui, avec ça, ça colle. Comprenez? Et ça peut être très grave. Vous venez de lire un livre passionnant, bouleversant. Et clac, la prochaine personne en est la victime. Vous êtes tellement imprégné que là encore, vous trouvez le moyen, parce qu'on projette aussi, ça ce sera un des aspects de la relation d'être très important, on projette énormément sur les autres. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un a un problème tout à fait différent de celui que l'on appréhende. Mais on appréhende le faux problème parce qu'on projette ce qui est chez soi. Et on peut projeter sur l'autre le problème qui est lié à la solution qu'on a vue dans le bouquin. Vous comprenez? Il n'est pas chez l'autre le problème. Mais comme on a lu un livre qui traite de ce problème auquel s'apparente peut-être par un ou deux mots, un ou deux aspects, la situation de l'autre, hop, on applique le contenu du bouquin. Et c'est quelque chose de très fréquent. C'est quelque chose de très très fréquent. Ça a si bien marché avec un autre. Vous avez aidé quelqu'un, vous lui avez donné tel conseil, la personne est revenue radieuse 15 jours après en vous disant « mais c'était exactement ce dont j'avais besoin » et puis le lendemain, le surlendemain, vous aidez quelqu'un d'autre, hop, je te refile la solution, ça a marché. Et oui, mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Et j'ai noté ici ceci, c'est que nous avons beaucoup de peine à bien écouter, en tant que disciples de Jésus-Christ, parce que nous sommes censés avoir dans la Bible la solution à tous les problèmes. Il faut faire attention avec ça. La réponse à vos problèmes, ouvrage de Billy Graham, n'est-ce pas ? Réponse à 200 questions. Très souvent, parce que nous avons cette approche des Écritures, ces versets de la Bible, ces certitudes, nous sommes beaucoup plus préoccupés du verset que nous allons envoyer à l'autre que de sa situation. Parce que le christianisme est une religion de certitudes. Vous comprenez? Ça, c'est notre problème. C'est vrai que la parole de Dieu nous offre des certitudes extraordinaires. Mais c'est vrai aussi que plus d'une fois dans la relation d'aide, il faut commencer par dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas dans cette situation, comme ça je te le dis honnêtement. Comment t'aider? Nous verrons, nous avons déjà apporté une grande partie de l'aide en écoutant. Et puis après, on peut faire un bout de chemin. On peut sonder Dieu. On peut faire équipe avec l'autre. Mais combien de fois on est devant des situations où il faut dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est difficile pour le disciple de Jésus-Christ qui aide, parce qu'il y a presque une honte parfois à dire aux autres qu'on ne sait pas. Je dois savoir dire que je ne sais pas. Et ce n'est pas toujours aussi décourageant pour l'autre qu'il y apparaît. J'ai noté, nous avons la Bible artillerie lourde, avec nos versets bibliques. Artillerie lourde. Dans un livre très intéressant, un homme de Dieu qui est aussi médecin, et médecin des âmes, entre guillemets, écrit ceci: la crainte qui s'empare du chrétien chargé de la relation d'aide devant un comportement difficilement explicable et compréhensible, ainsi que la manie de vouloir mettre le doigt sur un péché précis ou sur d'éventuelles pratiques occultes, lui font souvent oublier les règles bibliques les plus élémentaires. Écoutez d'abord, parlez ensuite. Le patient qui vient chercher conseil doit absolument percevoir chez son interlocuteur une attitude d'accueil et de compassion. Si tel est le cas, il sera réceptif même à des remontrances méritées pour corriger le cours de sa vie. Moi, j'ai souvenir de m'être trouvé sur un lit d'hôpital, douloureusement éprouvé, et d'avoir souhaité avec une vive impatience que se termine le plus vite possible la visite de tel ou tel croyant. Il me fatiguait. Et il me fatiguait parce qu'il était bourré de versets bibliques. Souvent, il me disait des choses que je savais déjà plus ou moins, mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'amour. Et pas d'être surabreuvé. Oh, je pense à un cher ami qui a bien changé depuis, qui est dans le ministère depuis des années. Je le vois encore arrivant dans la chambre avec ses gros sabots. On peut faire peur dans ce domaine. C'est Paul Brand. Ça vous dit quelque chose, Paul Brand? Ça, c'est un de ces hommes de Dieu. Paul Brand, qui est un vieillard largement à la retraite maintenant, britannique, a été le pionnier de la chirurgie de la main lépreuse. C'est aussi celui qui a été le premier à mettre en évidence le mécanisme originel de la lèpre avec la question du système nerveux central, n'est-ce pas, qui est touché et qui fait qu'il y a un engourdissement progressif qui fait qu'un rat peut dévorer les pieds d'un lépreux pendant la nuit et le malade ne s'en rend pas compte. Et donc Paul Brand a été un pionnier dans pas mal de domaines à cet égard, notamment à Vellore en Inde, dans un des grands hôpitaux fondée par Ida Scudder, qui était une femme de Dieu missionnaire exceptionnelle aussi, très âgée. Et il écrit: quand je demande à mes patients, à leur famille, qui vous a aidé dans votre souffrance, on me donne une réponse étrange et imprécise. La personne décrite donne rarement des réponses faciles et a rarement une personnalité engageante ou pleine d'entrain. C'est habituellement quelqu'un qui est calme et compréhensif, qui écoute plus qu'il ne parle, qui ne juge pas, qui n'offre même pas beaucoup de conseils, une présence, quelqu'un qui était là quand j'en avais besoin, une main à tenir, une étreinte compréhensive et perplexe, un sanglot partagé. Ça ne veut pas dire que la relation d'aide va systématiquement s'arrêter là. Ça, c'est une des modes de certaines formes d'approche psychologique de l'autre. On a érigé l'écoute en mode, en disant qu'elle avait des vertus suffisantes en elle-même et qu'il ne fallait surtout pas donner une conclusion et une aide directive ensuite. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais il faut avoir ce type d'approche-là d'abord, n'est-ce pas? Et peut-être qu'après, il faudra avoir le courage de dire, avec amour et fermeté, des choses déplaisantes. Mais il faut être dans cette attitude-là. Donc, pas de mode de l'écoute, en pensant que l'écoute a eu des vertus intrinsèques, des vertus en elle-même, et qu'il ne faut surtout pas trancher en quoi que ce soit après. Ça, c'est une part de la psychologie moderne, et dans le fond, c'est une forme de fuite devant les nécessaires réponses, pas obligatoires, mais où Dieu nous dit, eh bien, dans telle situation, écoute, là tu as quelque chose à dire maintenant. Là, il faut mettre le doigt. Et où on est tenté de reculer parce que on ne sait pas toujours comment l'autre va accueillir ce que l'on a à lui dire, n'est-ce pas? Oui, là j'ai cette pensée de Dietrich Bonhoeffer, ce résistant allemand qui a été exécuté, pendu dans sa prison juste avant la fin d'Hitler. Et Dietrich Bonhoeffer dit ceci, les chrétiens, en particulier les pasteurs, s'imaginent généralement qu'en présence d'autrui, ils doivent dire quelque chose, que c'est le seul service qu'ils puissent rendre. Ils oublient qu'écouter peut être un service bien plus grand que parler. Écouter pour comprendre. Ensuite, vaincre les parasites.